avril, ici Stephen Zurbinski. Voici les nouvelles. Eh bien, la Cour suprême va se pencher sur l'imposition de peine minimale pour les infractions relatives à la pornographie juvénile. Deux individus qui avaient été reconnus coupables de possession et de distribution d'images illicites ont invoqué d'ailleurs l'inconstitutionnalité des peines minimales en affirmant qu'elles sont cruelles et inusitées. La Cour d'appel leur avait donné raison, comme d'autres tribunaux d'appel dans des dossiers de même type au pays. Le plus haut tribunal du Canada va donc tester la validité de ces peines automatiques qui violent potentiellement la Charte canadienne des droits et libertés. Eh bien, c'est officiel. Honda va construire une usine de batterie pour véhicules électriques à côté de son usine d'assemblage d'Alliston en Ontario. Le constructeur automobile en a fait l'annonce ce matin, comme prévu, en présence du premier ministre du Canada, Justin Trudeau, et de son homologue ontarien Doug Ford, qui pourrait investir jusqu'à 5 milliards de dollars d'argent public dans ce projet évalué à 15 milliards. On écoute M. Trudeau.
Le Canada est reconnu comme le fournisseur de solutions propres nécessaires pour une économie globale carboneutre. Et on va poursuivre notre travail pour créer encore plus d'emplois qui vont permettre de garder notre économie forte pour les générations à venir.
Le porte-parole de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, accuse la ministre des Relations internationales, Martine Biron, de vivre sur une autre planète lorsqu'elle affirme que les choses se sont placées en Israël. La ministre Biron a annoncé hier, rappelons-le, que le représentant diplomatique du Québec devrait s'installer en Israël pour de bon dans les prochains mois, même si elle disait auparavant qu'elle voulait que la paix revienne dans la région. On écoute à ce sujet M. Nadeau-Dubois.
Déjà, ouvrir un bureau commercial dans un État sur lequel pèsent des allégations sérieuses de génocide, déjà c'est irresponsable. Mais procéder au lancement de ce bureau-là en pleine guerre, ça c'est carrément immoral.
9 stations du métro de Montréal et des tunnels sont en mauvais état, selon un document dont fait état aujourd'hui Le Devoir. Le plan annuel de gestion des investissements publics en infrastructure ne précise pas de quelles stations et tunnels il s'agit. De plus, 55 structures auxiliaires du métro, dont des postes de ventilation mécanique, sont également en mauvais état. La STM qui a refusé de donner des précisions au quotidien à ce sujet. Eh bien, toute une nouvelle, alors qu'une application qui utilise l'intelligence artificielle interprète, attention, les pleurs de bébés, et oui, pour proposer aux parents les scénarios les plus probables qui causent les pleurs. L'application nommée Nanny AI a été développée par Ubenois Health, une entreprise de MILA, l'Institut québécois d'intelligence artificielle. Elle fait des suggestions aux parents pour qu'ils trouvent la source du problème. Par exemple, est-ce que la couche du bébé est pleine ou fait-il trop chaud dans la pièce? On écoute à ce sujet le chef des opérations chez Ubenois Health, Florent Voumard.
La fréquence du pleur peut être plus élevée, la durée du pleur peut être plus longue, les pauses entre les pleurs. Les algorithmes, finalement, vont aller trouver ces éléments et être capables de donner la probabilité de dire, OK, c'est un pleur de faim, c'est un pleur de douleur, c'est un pleur de fatigue, c'est un pleur d'inconfort, etc.
On se porte 2 matchs ce soir dans les séries d'après-saison de la Ligue nationale de hockey. Le Lightning, notamment, qui va tenter de rebondir à domicile face aux Panthers après avoir perdu les 2 premiers matchs de la série à Sunrise. Puis les Islanders qui reviennent à la maison, eux aussi en retard, 0-2 contre la Caroline. Vous écoutez Cogeco.
Ici Michel Turcotte.
Ici Pierre Michaud.
Ici Émile Clouet.
CFIX 93 mise plus que jamais sur la qualité de l'information pour bien desservir ses auditeurs. CFIX est présentement le média local et la radio locale privée qui compte le plus de journalistes dans sa salle des nouvelles. Michel Turcotte et Pierre Michaud dénichent et rapportent l'information locale et régionale. Émile Clouet, des informations sportives. CFIX fait un devoir de fournir à ses auditeurs une information juste et complète. Vous pouvez joindre le service des nouvelles à nouvelles@cfixrimouski.com.
Rimouski vous parvient en direct du studio McDonald's du lundi au vendredi de 6h à 10h. CFIX FM 93. Au Québec, vous écoutez l'effet Normando. Voici Nathalie Normando.
Bienvenue à cette deuxième heure d'émission. Est-ce que vous avez tendance à manger vos émotions? Et qu'est-ce qui se passe dans le fait de derrière le fait de manger ses émotions? C'est une expression consacrée qu'on entend souvent. Et on s'est dit, tiens, on va vous présenter un organisme qui accompagne tous ceux et celles qui ont des défis sur le plan alimentaire, ceux et celles qui composent avec des troubles alimentaires. Notre invitée s'appelle Hélène. Simplement Hélène, elle est membre, milite au sein d'un groupe que je ne connaissais pas avant que vous me mettiez sur cette piste, chers auditeurs, les autres mangeurs anonymes. Bonjour Hélène.
Bonjour Madame Normandeau.
Heureuse de vous accueillir ce matin Hélène. Merci de nous parler comme vous allez le faire parce que ça doit, c'est pas facile quand même hein, de se confier sur ces troubles alimentaires.
Non, c'est pas facile, mais d'une autre façon, on est habitué maintenant à l'intérieur du mouvement de se livrer, de partager ensemble, tout ça. Alors, c'est moins difficile qu'on pense.
tant mieux. Hélène, avant de parler d'autres mangeurs anonymes comme tel, peut-être nous raconter votre histoire. Vous avez eu, si je comprends bien, des problèmes, des troubles alimentaires toute votre vie.
Oui. Alors moi, j'ai commencé à avoir des troubles alimentaires à l'âge de 5 ans. Et à l'âge de une année après le retour de la guerre de mon père, j'avais doublé de poids par un malaise. Le malaise qui s'était installé à la maison du fait de cet homme-là qui revenait de la guerre et d'après 5 ans. Et je ne connaissais pas mon père du tout quand il est parti. Maman est enceinte de moi de 3 mois. Alors, c'était la première fois que je voyais mon père à 5 ans. Et une année après, j'avais pris cette façon de manger-là, mes émotions, qui étaient pour une petite fille de cet âge-là. Un autre enfant, une petite fille ou un petit garçon aurait pu faire de l'urticaire, se gratter toute sa vie ou devenir très, très agité. Mais moi, j'ai mangé. Alors ça m'a traîné toute ma vie jusqu'à aujourd'hui.
Et jusqu'à aujourd'hui. Parce que je vais vous poser une question plus intime, là.
Je vous en prie.
Vous êtes, votre poids,
j'ai atteint le poids de 402 livres à un moment donné, dans les années où j'avais 29, 30, 32 ans, 35 ans. Et aujourd'hui, mon poids est de 163 livres, maintenu depuis 20 ans, sans reprise de poids de plus de 10 livres, que je repère doucement avec le mouvement toujours.
Et là, j'entends Hélène, nos auditeurs, dire quoi? Elle est passée de 402 livres à 163 livres,
elle
maintient son poids depuis 20 ans.
C'est pas Hélène qui fait tout ça, c'est l'ensemble du mouvement. Le mouvement des outre-mangeurs anonymes, c'est la plus belle chose qui se passe à l'intérieur de ça. C'est le partage des membres, le soutien des réunions. Je ne manque jamais mes réunions, très, très rarement. Et je fais à peu près 2 réunions par semaine depuis 41 ans. Et c'est ce qui fait que je maintiens mon poids. C'est pas par ma puissance à moi, c'est par toute cette organisation-là qui a été merveilleuse, qui a changé ma vie complètement.
Hélène, qu'est-ce qui se passait dans votre tête lorsque, premièrement, quel genre de trouble, vous souffriez de quel genre de trouble? Est-ce que vous aviez tendance à manger compulsivement dans quel contexte?
Manger compulsivement, oui. Toujours cette obsession qui s'est installée, qui est la maladie de la compulsion alimentaire, ce besoin constant de manger plus. Alors, on a bien mangé, un bon repas comme monsieur, madame, tout le monde, et l'effet de commande intérieure dans la tête, encore manger, un peu plus manger, et il n'y a pas de faim. Alors, c'est ça, on prend du poids énormément, il y en a d'autres qui se font vomir, tout ça, moi je n'ai pas connu ce côté-là. Il y a le mouvement est fantastique parce qu'on reconnaît les personnes de toutes ces malaises-là, que ce soit les anorexiques, que ce soit boulimiques, que ce soit la compulsion alimentaire, ça convient, les gens peuvent venir à OA, c'est ouvert pour ça. Alors moi, ce qui se passait, j'étais une compulsive, toujours besoin de manger plus, tout simplement.
À quel moment vous avez eu un déclic? Parce que 402 livres, je ne sais pas quelles sont vos mensurations, mais 402 livres, ça commence à être un gros poids à supporter.
Oui. Alors, j'étais une personne assez grande. J'avais à l'époque 5 pieds 6 et demi à peu près. Et puis, je n'ai jamais été boudinée, Madame Normandeau. Moi, j'étais une personne carrée, forte. saturé. On voit ça chez des... Il y a des personnes qui sont tendance à être en boudin, là. Ouais. Et moi, j'étais pas comme ça, mais j'étais massive.
Ouais. Bien bâtie, comme on dit au Québec.
Carré, des bonnes épaules, et puis des ossature forte et pesante, très lourde.
Et à quel moment, Hélène, vous avez eu le déclic, là? Après, vous avez dit que ça n'a plus
de
bon sens.
Vous me parlez de déclic, quoi, de faire quelque chose. Ouais. J'ai fait quelque chose toute ma vie, Mme Normando. J'ai essayé tous les diètes possibles. J'ai essayé l'acupuncture, j'ai essayé l'inoptis, j'ai essayé les diètes de mille et une façons, j'ai essayé tous les médecins qui étaient possibles, maman m'amenait chez le médecin régulièrement, et j'essayais, et je perdais du poids. J'ai perdu 75 livres une fois, j'ai perdu 125 livres une fois, et avec une agence de nourriture que je nommerai pas, j'ai perdu 204 livres. Mais je les reprenais toujours. J'ai fait faire des opérations en plastique après une perte de poids de 204 livres. Et un an et demi, deux ans après toutes les opérations de refaire mon corps, j'avais repris 170 livres. Alors, c'est ça, la maladie de la compulsion alimentaire. Et c'est à peu près dans ce temps-là que je suis arrivée à Outre-Mangeur Anonyme. Et là a commencé lentement, un rétablissement qui dure depuis ce temps-là et qui va durer encore jusqu'à ma dernière journée de vie. Parce que je vais rester avec le groupe, je vais rester avec les outre-mangeurs.
Vous êtes là depuis 41 ans.
41 ans.
C'est quelque chose, hein? Félicitations. Hélène,
merci beaucoup.
Est-il vrai que c'est une amie qui vous a convaincu ou qui vous a suggéré?
C'est une amie, oui, c'est une amie sur je vous dirais, sur une année, qui m'a téléphoné, qui avait trouvé elle-même les outre-mangeurs dans un congrès extraordinaire qu'il y avait eu à Montréal. Cette personne-là, ils étaient ensemble à 850 personnes à l'hôtel dans un magnifique congrès et elle avait été absolument ravie de tout ça. Et cette personne-là savait que j'avais tout repris mon poids. Alors, elle m'a téléphoné sur une période pratiquement de un an. Et puis, pour me dire, Hélène, j'ai trouvé quelque chose d'extraordinaire, tu devrais venir. Puis moi, je voulais plus essayer rien parce que j'avais tout essayé. Je ne voulais plus du tout essayer des choses. Alors, à chaque fois, je me faisais prendre parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de possibilité de voir le numéro de la personne qui nous appelait. Alors, je répondais, puis elle recommençait, puis elle me disait, Hélène, tu devrais. Si tu savais, je vais y aller avec toi la première fois. Puis, si tu n'aimes pas ça, tu y iras plus. Elle dit, fais juste 5-6 réunions pour voir si c'est pour toi. Puis si ça te convient, tu restes. Sinon, tu t'en iras. Alors, ça a commencé comme ça. Un soir, elle m'a accompagnée. Je suis arrivée à mon meeting ici à Québec. Et puis, ça fait 41 ans que ça dure.
C'est le même...
Parce que doucement, je m'excuse. Oui, vous vouliez me demander quelque chose.
Mais c'est le même principe que les alcooliques anonymes. C'est bien
exactement
ça?
Exactement la même chose. Un beau mode de vie en 12 étapes qui soigne le côté spirituel, le côté physique et le côté mental. C'est ce qui manque dans toutes les espèces de diètes qu'on entend, les opérations, tout ça. C'est le besoin d'être accompagné, la balance de nos jours dans ça.
Il y a un auditeur qui nous écrit, une auditrice, mon fils de 24 ans avait vraiment besoin d'aide encore aujourd'hui. Je lui ai proposé Outre-Mangeur Anonyme. Il était ouvert au moment de ma proposition et a été repoussé par le côté religieux du mouvement. Il y a des opinions tranchées.
Mon Dieu, vous arrivez à un bon point, là, c'est extraordinaire.
Oui, oui.
Alors, à l'intérieur de Outre-Mangeur Anonyme, Madame Normando, il n'est pas question de religion. Il est question de spiritualité, si les gens sont ouverts à ça. Si les gens ne sont pas attirés du côté de la spiritualité du tout, ils ont le droit, ils sont bien à l'aise, c'est le groupe leur force. Moi, longtemps, ça a été le groupe, ma gang, en français, en mon bon français, ma gang m'attendait tous les semaines et j'étais présente et j'étais aidée, j'étais écoutée, j'étais accueillie à bras ouverts à l'intérieur de ça. Il n'y a pas été question de spiritualité pendant très longtemps pour moi, je ne veux pas engager le mouvement, là. Le mouvement est un mouvement spirituel, mais pour ceux qui veulent adhérer à ce côté-là. Alors, cette belle liberté-là convient à tout le monde. Ce n'est pas obligatoire de dire, moi, je vais ouvrir mon cœur à la spiritualité. C'est un choix personnel et on a des gens à l'intérieur du mouvement, beaucoup, qui viennent par la force du mouvement. Et ça m'a gardé pendant des années.
La force du mouvement. Expliquez-nous concrètement. Comment ça se passe?
La force du mouvement. Oui. Alors, une personne nouvelle aujourd'hui, oui. Monsieur, Madame, tout le monde vient s'asseoir chez OA une première fois.
Oui.
Elle écoute les lectures. On a des lectures, on a de la littérature. C'est une réunion. Et puis, on